Alors, je vais vous entretenir de la réception de la nomenclature binominale. J'emploie ce terme parce que notre collègue Philippe Lherminier m'a fait la leçon. Les historiens ont l'habitude, à la suite de la plupart des biologistes du 19e et du 20e siècle, d'utiliser le terme binomial. C'est pareil. Donc la nomenclature binominale, c'est-à-dire les noms triviaux de Linné, et la diffusion du linnéisme en France au XVIIIe siècle. Alors, le problème dont il s'agit est la nomenclature des êtres vivants. Actuellement, les scientifiques utilisent des noms qui comportent deux termes, un nom de genre et un nom d'espèce. C'est une pratique qui est répandue chez les naturalistes en particulier, mais aussi chez les scientifiques qui ont affaire à du matériel d'expérience pas très connu. Si on travaille sur la souris ou le rat, on va mettre entre parenthèses le nom scientifique. Si on travaille sur Escherichia coli, on va évidemment utiliser le nom de genre et le nom d'espèce reçu par les naturalistes, par les taxinomistes. Le grand public lui-même va utiliser occasionnellement ce genre de nomenclature toutes les fois qu'on a affaire précisément à une espèce qui n'est pas très répandue. Et finalement, le nombre des espèces communément connues par le grand public est relativement limité. Au XVIIIe siècle, Villard, le botaniste de Grenoble, avait fait une petite enquête dans le Champsaur et il avait remarqué que le savoir des paysans n'aboutissait guère qu'à plus d'une centaine de noms vernaculaires pour les végétaux, alors qu'il existe à peu près 2000 espèces différentes dans la province du Dauphiné. Alors, cette nomenclature linnéenne, constituée par deux termes, est quelque chose qui a des dont on a des exemples dans l'Antiquité, du moins des exemples apparents. C'est-à-dire que chez des naturalistes comme Aristote ou Théophraste, on trouve effectivement des désignations d'êtres vivants qui comportent deux termes, et on peut penser qu'il s'agit d'un nom de genre et d'un nom d'espèce. Mais il faut faire immédiatement une réserve importante à ce sujet-là, c'est que le concept de genre et d'espèce chez Aristote, Théophraste ou les naturalistes de l'Antiquité n'est pas du tout notre concept. Il s'agit d'un concept hiérarchisé, d'un concept de subordination. Par exemple, dans le genre des plantes, les salades constituent une espèce, mais à l'intérieur du genre salade, on peut distinguer plusieurs espèces différentes de salades. Donc, le mot genos, ou genus en latin, et le mot eidos, ou species en grec, le mot eidos en grec ou species en latin, c'est exactement pareil, ça vient de la racine voir dans les deux cas. Eh bien, ces termes sont donc fluctuants selon les circonstances dans lesquelles on va se trouver à les employer. Et Tournefort d'abord et surtout Linné vont figer, transformer ce concept de genre et d'espèce et l'appliquer à des catégories taxinomiques définies. Et je dirais tout de suite qu'en ce qui concerne Linné, ce concept de genre correspond à la réalité de ce que l'on trouve dans la nature, ainsi que le concept d'espèce. Donc il s'agit d'une conception réaliste. Au XVIe siècle, les naturalistes de la Renaissance vont de temps en temps et occasionnellement reprendre ces noms, quelquefois binominaux, utilisés déjà dans l'Antiquité, mais le plus souvent vont se trouver amenés à distinguer un nombre d'espèces beaucoup plus considérable, et à ce moment-là vont les distinguer les unes des autres en notant les caractères qui leur paraissent importants ou significatifs. Et parfois même, ils ne notent aucun caractère particulier, ils se bornent à distinguer une première espèce, une seconde espèce. Comment témoigne l'exemple que nous avons ici? Il s'agit donc, c'est la traduction française d'un ouvrage qui a été...
C'est l'autre monsieur Blanche.
aussi bien. Ils sont interchangeables. D'accord. Donc, ici, vous avez la traduction française d'un ouvrage qui a été publié en latin à Lyon en 1580. Il s'agit de la traduction française de l'Historia Plantarum de Daléchamps. Et vous voyez que les noms, la base de l'ouvrage est constituée par les commentaires sur Dioscoride de Matthiole, d'où le nom de Matthioli qui apparaît comme nom d'auteur. Et la base de ces noms, c'est simplement la seconde espèce de prêle, la troisième espèce de prêle ou chevaline. La seconde chevaline est semblable à la précédente, sinon que ses soies sont plus longues. La troisième chevaline est appelée, etc., puisqu'elle a la tige nue. Il n'y a pas un ordre dans la description. Il s'agit là de quelque chose qui est très caractéristique des botanistes de la Renaissance. Et avec Linné, nous avons une transformation assez profonde de l'histoire naturelle, en ce sens qu'il va d'une part insister sur le fait qu'il faut décrire tous les êtres vivants, quels qu'ils soient. D'autre part, il va proposer un vocabulaire précis pour effectuer une description. Il va également proposer des règles de nomenclature, aussi bien pour le genre que pour l'espèce. Ce sont des règles très strictes. Par exemple, on va proscrire ce qu'on appelle les noms primitifs, c'est-à-dire les noms vernaculaires. On va systématiser l'emploi de noms latins, de préférence aux noms grecs, et ça amène du reste des bouleversements assez substantiels dans la nomenclature. Alors, je vous rappelle que ce personnage est né en 1707. Il est mort en 1778. Et il a, au cours de sa jeunesse, fréquenté les universités suédoises, en particulier Uppsala. Il a eu l'occasion de bénéficier d'une bourse d'études pour aller étudier l'histoire naturelle de la Laponie. Il a ramené non seulement des animaux, des végétaux, des observations, mais même un costume de lapon, un tambour de lapon, etc. Et il s'est fait peindre ici dans un costume qu'il affectionnait particulièrement. Et c'est du reste le costume qu'il a adopté pour se marier. Mais après avoir soutenu sa thèse aux Pays-Bas, Linné est revenu en Suède. Il a obtenu des fonctions relativement importantes, d'abord comme médecin du roi, puis ensuite comme professeur à l'université d'Uppsala, c'était ce qu'il ambitionnait. Et il avait, entre-temps, pendant un séjour de 3 années en Hollande, publié un certain nombre d'ouvrages importants qui sont en quelque sorte un peu à l'instar de Darwin, marqués par le voyage autour du monde. Ce sont des ouvrages dont il a conçu le plan au cours de son séjour en Laponie. Il y a d'abord les Fundamenta Botanica, dans lesquels se trouvent les principes qui doivent être employés par les naturalistes. Puis nous avons la description du jardin botanique de George Clifford, dans lequel Linné a pu travailler aux Pays-Bas dans d'excellentes conditions pour connaître la flore exotique, étant donné que Clifford était le directeur de la compagnie des Indes orientales, la compagnie néerlandaise des Indes orientales, et avait rassemblé de très riches collections de végétaux vivants. Linné publie également, toujours aux Pays-Bas, la flore de la Laponie sur laquelle il avait travaillé. Et puis, un autre fruit de son voyage aux Pays-Bas, c'est les genres de plantes dans lesquels Linné décrit, en appliquant ses principes, tous les genres de plantes connues. Il a le projet, dès cette époque, de décrire également toutes les espèces végétales, mais ce projet ne se concrétisera que beaucoup plus tardivement, c'est-à-dire presque 20 ans après, sous la forme du Species Plantarum dont je vais vous parler. Ces règles de nomenclature des êtres vivants, chez Linné, sont des règles qui sont très strictes par rapport à l'usage qui avait été jusqu'alors celui des naturalistes de la Renaissance ou du XVIIe siècle. En ce sens que Linné va définir, bien entendu de façon stricte, ce que sont les genres par des ressemblances et ce que sont les espèces par des différences au sein des genres. Et par voie de conséquence, la nomenclature d'une espèce doit porter sur les différences qui permettent de distinguer les différentes espèces à l'intérieur d'un genre en excluant de leur désignation toute indication superflue. Donc l'inné vise à la fois la précision du vocabulaire et du langage et également vise la concision extrême et selon lui, il est possible de nommer une espèce en utilisant quelques mots qui sont suffisants pour caractériser l'espèce par rapport à ses congénères. Et bien entendu, lorsque nous avons affaire à un genre qui ne comprend qu'une seule espèce, eh bien à ce moment-là, il est superflu d'attribuer à cette plante un nom spécifique, une épithète spécifique, puisqu'il n'y a pas lieu de la distinguer d'autres espèces qui seraient présentes dans le même genre. Mais ça a un inconvénient, évidemment. D'une part, premier inconvénient, si on découvre une seconde espèce dans un genre qui jusqu'alors était monospécifique, il est nécessaire de nommer à la fois l'espèce primitivement placée dans ce genre et la nouvelle espèce à laquelle on le rattache. Et d'autre part, il y a également un inconvénient, c'est que dans les genres qui sont riches en espèces, les noms d'espèces vont être très longs, puisqu'on est obligé d'énumérer pour chaque espèce les caractéristiques qui permettent de la distinguer de toutes les congénères. Donc, le concept de genre permet certes une économie de vocabulaire, le concept de genre inclus dans la nomenclature permet une économie de vocabulaire par rapport à ce qui se passerait si on se bornait uniquement à traiter toutes les espèces de façon uniforme, mais il comporte quand même, pour les gens riches en espèces, un inconvénient qui concerne la longueur de la phrase descriptive qui sert, en même temps qu'à la description, à nommer l'espèce en question. Et pour l'usage courant, par exemple pour l'indexation des ouvrages, l'inné va imaginer, en 1745, d'utiliser des abréviations. Ces abréviations sont constituées par ce qu'il va appeler par la suite un nom trivial, c'est-à-dire que nous avons uniquement un nom de genre et une épithète spécifique. Il utilise pour la première fois ce procédé dans la description des résultats scientifiques d'un voyage en Hollande, d'un voyage à Hollande, c'est une île qui maintenant, c'est une île de la mer Baltique, qui en fait maintenant relève de la Finlande et non plus de la Suède. Elle était suédoise à l'époque. Et dans cet index, vous voyez que nous avons des noms qui se présentent effectivement comme des noms binominaux. Par exemple, ici, nous avons le Sparganium vulgare ou le Sparganium natans, alors que dans le texte de l'ouvrage, c'est encore le nom spécifique, classique, légitime, constitué de plusieurs mots, qui est employé par l'auteur, par l'inné. Et l'utilisation de ces deux termes, nom générique et nom spécifique, s'applique non seulement au genre qui comporte plusieurs espèces, comme par exemple le genre Carex ou le genre Sparganium, mais également au genre Ortie, qui lui n'en comporte qu'une seule, mais qui bénéficie cependant, contrairement à la règle que l'inné avait édictée dans ses Fondamenta Botanica en 1737, qui bénéficie cependant d'une épithète spécifique à côté du nom de genre, c'est Urtica dioica. Alors, ce système de nomenclature, l'inné va l'officialiser quelques années plus tard. Il a été appliqué, mais je passe là-dessus, par un de ses élèves, dans un ouvrage qui s'appelle le Pansubecus. Comme il s'agit là encore de tableaux, les végétaux sont décrits, sont nommés uniquement avec un nom de genre et un nom d'espèce. Le Pansubecus a été publié en 1749. Et nous avons dans les classes repérées par l'inné, les 24 classes de plantes à fleurs plus la cryptogamie, nous avons donc des noms binominaux comme par exemple les prêles dont on a vu tout à l'heure la figure, l'Equisetum arvincé ou Equisetum selvaticum. Et ici, dans les différentes colonnes, ici nous avons un numéro d'ordre qui correspond, qui renvoie aux descriptions publiées dans la Flore de Suède. Donc il n'y a aucune ambiguïté possible sur ce qu'est l'Equisetum arvincé ou l'Equisetum selvaticum, puisque on peut en retrouver la désignation complète et la description dans l'ouvrage en question. Et ici, nous avons repéré par 0 ou 1, quelquefois c'est 1 et 0 à la fois, nous avons l'appétence de différentes espèces animales. En l'occurrence, il s'agit des bovins, des caprins, des moutons, il doit y avoir les porcs également, les chevaux, eux, pour telle ou telle des plantes présentes appartenant à la flore suédoise. Alors, cet usage pratique dans des index ou dans des tableaux récapitulatifs, Linné va le préconiser, cette fois-ci sous forme d'un aphorisme complémentaire à la réédition de ces Fundamenta Botanica. L'ouvrage qui est en quelque sorte étendu s'appelle Philosophia Botanica. Il paraît en 1751 et Linné explique que l'on peut faire appel à des noms qu'il appelle des noms triviaux. Les noms triviaux peuvent être admis selon un usage que j'ai adopté dans le Pansuecus, c'est l'ouvrage que je viens de vous montrer. Il consiste en un seul mot, suivi d'un mot, ça correspond au genre, suivi d'un mot librement pris n'importe où. Donc on n'est plus obligé d'utiliser une épithète qui caractérise les différences d'une espèce par rapport à ses congénères. On utilise n'importe quoi, ça peut être un nom d'homme, ça peut être un nom de lieu, ça peut être un ancien nom de genre repris en apposition. Par exemple, le zèbre placé dans le genre cheval va s'appeler Equus zebra, parce que zebra désignait autrefois les zèbres en latin. L'âne va être Equus asinus, parce que l'âne asinus est le nom commun de l'âne en latin, et il n'est pas nécessaire d'insister sur les différences dans ce nom, il n'est plus nécessaire d'insister sur les différences qui séparent l'âne, le zèbre et le cheval. Il y a donc une économie de vocabulaire considérable pour les échanges entre botanistes. Alors, il consiste en un seul mot, suivi d'un mot librement pris n'importe où, d'où trivial, qui veut dire qu'on le ramasse dans les carrefours. La raison principale qui est irrécusable est que le caractère différentiel est souvent si long qu'on ne peut l'employer partout sans inconvénient et qu'il est exposé au changement lorsqu'on découvre de nouvelles espèces. Mais Linné insiste bien sur le fait que ces noms triviaux ne doivent pas se substituer aux véritables noms spécifiques. Il ne faut pas se contenter de donner des noms. Il faut d'abord distinguer chaque espèce de ses congénères au moyen d'une description précise faisant apparaître les différences, sans quoi, dit Linné, la science retomberait dans la barbarie. Les noms spécifiques légitimes marquent les différences qui distinguent les espèces entre elles. Et Linné va systématiser l'emploi de ces noms triviaux dans son ouvrage Species Plantarum, qui constitue le point de départ de la nomenclature botanique actuelle, qui a été publié à Stockholm en 1753. Comment se présente l'ouvrage ? Nous avons les noms spécifiques, légitime, les noms spécifiques légitimes, ce sont des noms que nous avons ici, par exemple Polypodium, Frondibus subpipinatis, Foliolis obovato oblongis, etc., c'est-à-dire les caractéristiques de la plante qui distinguent ce polypode de ses congénères, et comme le genre Polypodium est un gros genre, ben, effectivement, les phrases descriptives et nominatives dans l'ancien système sont longues, mais en abrégé, on peut se contenter de dire Polypodium cristatum. Et à ce moment-là, on gagne un temps considérable. Ici, c'est le Polypodium Felix Mas, F Mas, F Femina. Ce sont d'anciens noms de genre qui ont été repris par Linné en apposition Il ne s'accorde pas effectivement avec le nom neutre du genre Polypodium. Et ce sont donc des épithètes spécifiques. La discussion porte de savoir, sur le point de savoir si trivial s'applique à la fois au nom de genre ou au nom d'espèce ou uniquement à l'épithète spécifique. Mais comme on a abandonné la qualification de trivial pour ces noms, ça ne présente plus maintenant un très gros intérêt pour les naturalistes. Alors, la réception de l'œuvre de Linné va être variée selon les pays. En France, on admet qu'elle a été généralement, l'œuvre de Linné a été généralement mal reçue. Et ce sont principalement les objections de Buffon, d'une part, et d'Adanson, d'autre part, qui ont retenu l'attention des historiens. D'abord des contemporains et ensuite des historiens. En ce qui concerne Buffon, les critiques portent sur le fait qu'il est peu facile, finalement, d'avoir des différences tranchées pour établir, pour distinguer les différents groupes. Les travaux de Buffon, les critiques de Buffon, je ne vais pas les décrire en détail. C'est un nominaliste, disons, pour le situer en bloc. Et il se livre à des critiques qui portent précisément sur la nomenclature parce qu'il reprochait à Linné le style laconique de ses diagnoses et sa nomenclature en remarquant « tout est changé jusqu'au nom et au surnom des plantes ». Il écrit cela en 1749, donc avant l'adoption généralisée des noms triviaux, mais il a persisté dans son attitude négative envers l'œuvre de Linné jusqu'au bout. Et Buffon, je vous le rappelle, préconisait une classification qui était fondée sur l'utilité, si bien que dans les mammifères, par exemple, on a d'abord la description du cheval et du chien parce que ce sont les animaux les plus proches de l'homme ou les plus utiles. Et nous avons évidemment, il y a eu évidemment des contemporains de Buffon qui ont fait observer à quel point ce type de classification pouvait être dangereux. Malesherbes, par exemple, dont les critiques vis-à-vis de l'œuvre de Buffon n'ont été publiées qu'après la mort de Malesherbes. Malesherbes disait sur cette base-là, on peut ranger le ver à soie et le coton dans un même genre, puisqu'ils nous fournissent l'un et l'autre des éléments utiles précisément pour se vêtir. Alors, à côté des critiques de Buffon, il y a eu des critiques du botaniste Adanson, qui prend soin de distinguer la définition et la description. Adanson écrit « Le nom est un signe simple ou composé, choisi arbitrairement par l'homme de chaque société ou pays pour représenter, soit par un son qui frappe les oreilles, soit par un caractère qui peint aux yeux, et pour rappeler à l'esprit l'idée ou le souvenir d'une chose ou d'une sensation passée. » Et Adanson essaye de trouver un système de nomenclature. Il va utiliser les lettres de l'alphabet, enfin, il va proposer les lettres de l'alphabet, des signes, etc. Et pour finir, il a un système de nomenclature assez complexe qui comporte, là encore, un nom de genre, mais un nom d'espèce qu'on peut transférer d'un genre à un autre, indifféremment. Et c'est en quelque sorte, communément, dans le langage courant, ce seul nom d'espèce que les naturalistes peuvent ou doivent employer. Alors, il y a d'autres naturalistes qui vont être réservé vis-à-vis de Linné. Ici, nous en avons une liste, je n'entrerai pas dans les détails maintenant. Gérard, dans la Flora Gallo-Provincialis, qui paraît en 1761, n'utilise pas la nomenclature linnéenne tout en utilisant les descriptions linnéennes, mais d'autres naturalistes, comme Barbe Dubourg, par exemple, qui publie un ouvrage en 1767, Le botaniste français, utilise uniquement les noms français, fait appel aux phrases de Linné, mais se garde bien d'utiliser les noms triviaux linnéens. Je ne passerai pas, je ne m'étendrai pas sur le cas très particulier de Gilibert. Alors, à côté de cela, il y a des botanistes qui acceptent la nomenclature binomiale avec des réserves. C'est par exemple le cas de Lamarck en 1778 qui va populariser la nomenclature dans la première édition de sa Flore française, publiée avec l'appui de Buffon par l'Imprimerie royale. Mais nous avons surtout Jussieu qui présente l'exposition d'un nouvel ordre de plantes adopté dans les démonstrations du Jardin des plantes. Jussieu a adopté dès 1759 à Trianon, dans le jardin qui a été établi à la demande du roi Louis XV, jardin botanique qui a été établi à la demande du roi Louis XV, la nomenclature triviale de l'inné, en raison des avantages qu'elle comporte, tout en proposant une classification qui est celle qui est la sienne, mais enfin qui est celle de son oncle Bernard de Jussieu, et la sienne également. Mais nous avons également d'autres auteurs, vous voyez, assez nombreux, en particulier Gouhan, qui est à Montpellier, aussi bien que Duchesne, qui est le fils d'un intendant de Trianon, ou encore l'abbé Rosier, Claret de la Tourette, à Lyon, qui publie les démonstrations élémentaires de botanique à l'usage des écoles vétérinaires en 1766. Et c'est l'ouvrage qui va servir à populariser, finalement, et les principes linnéens de description et également la nomenclature triviale, bien que le jardin soit classé selon le système de Tournefort. Pratiquement, on peut dire que l'adhésion des naturalistes va se multiplier, va s'accroître avec les années, et qu'après la mort de Linné en 1778, la plupart des auteurs de flore vont adopter effectivement les noms triviaux linnéens. En ce qui concerne les zoologues, là aussi, nous avons adoption d'une nomenclature linnéenne. Alors, je voudrais maintenant, pour conclure, rappeler deux choses. D'abord, c'est que dès le XVIIIe siècle, il s'est trouvé un naturaliste lyonnais d'excellente qualité, Gilibert, qui a en quelque sorte opposé les naturalistes parisiens et les naturalistes provinciaux, en expliquant que les Parisiens avaient rejeté le linnéisme alors que les provinciaux l'avaient adopté. Mais nous voyons bien, par l'exemple de Jussieu ou par l'exemple de Duchesne, que des naturalistes parisiens, du vivant même de Linné, ont accepté la nomenclature binomiale, les phrases de Linné, sinon la classification. D'autre part, on a opposé également académiciens et amateurs. Là, il y a peut-être une certaine part de vérité, encore que nous sommes bien obligés de constater que si effectivement Buffon ou Adanson peuvent être rangés dans le clan des académiciens, Jussieu en faisait aussi partie, et Jussieu est donc un adepte de la nomenclature binominale. Alors, il est évident que la pression des amateurs s'est incontestablement exercée pour l'adoption des noms triviaux. Et notamment, on peut évoquer le cas de Jean-Jacques Rousseau, sur lequel je ne m'étendrai pas, Jean-Marc Drouin a très bien étudié cela, qui a beaucoup insisté sur le rôle de la nomenclature linnéenne pour permettre les échanges, l'étude des végétaux et les échanges entre botanistes. Si nous revenons aux critiques de Buffon, nous constatons qu'elles portent en partie sur la simplification excessive que Linné impose aux rapports complexes qui existent entre les êtres vivants, aussi bien en ce qui regarde leurs liens taxinomiques que leur physiologie ou leur biologie. Ce que Buffon reprochait à Linné, c'était de faire une science de mots et non pas une science qui reflétait la biologie, qui décrivait la biologie même des êtres vivants. Même si dans l'œuvre de Linné, il y a beaucoup d'observations de caractère biologique et d'ouvrages de caractère biologique. Buffon dénonce les systèmes artificiels et il se plaît à souligner le nombre différent de ces systèmes artificiels, celui de Linné par exemple dit système sexuel, et leurs contradictions pour faire ressortir le besoin d'une méthode naturelle. Mais il est évident que Linné, par sa nomenclature binomiale, a en quelque sorte figé la taxinomie qui était relativement fluctuante de ses prédécesseurs en une taxinomie qui est strictement hiérarchisée. Nous avons le genre et l'espèce, et puis éventuellement des classes qui peuvent être artificielles, des ordres qui peuvent être artificiels, mais le genre et l'espèce sont le noyau de base de la taxinomie linnéenne. Et Buffon redoutait que ça fige la taxinomie, étant donné que, d'après lui, il n'y avait pas des différences majeures susceptibles d'exister entre les genres ou même entre les espèces. Alors, que Linné en ait été conscient ou pas, il est évident que la nomenclature binominale a profondément modifié la systématique des êtres vivants. Dans une première étape, assurément, on a, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, l'adoption des noms triviaux par les botanistes européens a, en définitive, permis l'adoption d'un certain nombre de conceptions linnéennes, sinon de son système sexuel. Mais, comme on l'a montré, les conceptions taxinomiques de Linné étaient fort complexes, vous les avez rappelées tout à l'heure. Elles reposaient sur la réalité du genre et de l'espèce, qui étaient, pour schématiser, les enfants de la nature, c'était les espèces qui étaient les filles de la nature, et non pas celles du naturaliste. Donc, il s'agit d'entités naturelles. Et les descriptions visent à atteindre, en repérant les caractères qui sont réputés essentiels et en les inscrivant dans une nomenclature que Linné qualifiait de légitime, celle qui était constituée par des phrases, les conceptions taxinomiques sont donc des descriptions et des inscriptions qui visent en quelque sorte à s'approcher de l'essence de la plante. Alors que les noms triviaux ne sont proposés qu'à titre de succès d'année, à titre d'étiquette. Ils sont là pour soulager la mémoire, pour permettre, faciliter les échanges entre botanistes. Comme les botanistes et les naturalistes en général vont s'en servir abondamment, non seulement dans leurs échanges, mais également dans leurs publications scientifiques, ce lien qui existait dans l'esprit de Linné entre le nom binominal, le nom trivial et la recherche d'une essence même du végétal va petit à petit s'amenuiser et disparaître. Et nous le voyons très bien chez des naturalistes comme Cuvier qui nie la réalité du genre, ou comme Lamarck qui lui va carrément refuser la réalité du genre et de l'espèce. Ils sont à l'aise avec l'emploi des noms triviaux qui ont été en quelque sorte déconnectés des conceptions taxinomiques initiales de Linné, des conceptions philosophiques de Linné sur la nature des genres, la nature des espèces, la nature des hiérarchies. À la limite, on peut dire qu'au fond, le triomphe des noms triviaux linnéens en France a assuré paradoxalement la revanche, la revanche posthume des conceptions de Buffon. Je vous remercie.
Moi, j'ai une question. Est-ce qu'on sait qu'est-ce qui a déterminé Linné dans sa conception finalement assez très particulière de la systématique et notamment cette idée de nomenclature binomiale? Est-ce que c'est une idée qui lui vient d'autres naturalistes à qui il emprunte? Est-ce que c'est une idée qui lui vient d'une certaine influence des mathématiques, cette idée d'ordre ou... Qu'est-ce qui fait que Linné met au point ce système-là et pas un autre?
Oui. Je pense que, la réponse à la question est particulièrement complexe. En dépit d'une abondante littérature sur Linné, il paraît pas tout à fait autant d'ouvrages sur Linné que sur Darwin, mais presque, on ne sait pas très bien, en définitive, quelle a été la formation philosophique de Linné, mais il apparaît un peu comme une exception dans le cadre suédois où on est peu enclin à adopter les Lumières. Et Linné n'est assurément pas un homme des Lumières, bien que vivant entre 1707 et 1778. En revanche, il a été marqué d'une part par la théologie naturelle et d'autre part par le cartésianisme. Il ne faut pas oublier que Descartes est mort à Stockholm lorsqu'il avait été appelé à Stockholm par la reine Christine. Et il est clair qu'à l'époque, les Suédois étaient donc très portés à mettre de l'ordre dans la nature, avec des énumérations. Il y a tous les principes cartésiens qui sont là derrière. Et dans ces conditions-là, je pense que ça explique bien des choses dans la philosophie botanique de Linné.
Vous avez parlé des Jussieu, Bernard et Antoine Laurent de Jussieu, comme d'une certaine manière...
Pardon ?
Vous avez parlé des Jussieu, Bernard Antoine Laurent, comme des sortes de passeurs de la théorie de Linné ou d'introducteurs, de soutien.
Oui, si on veut,
J'ai le souvenir de l'éloge que fait Condorcet de Bernard de Jussieu, où quand il fait l'éloge de Bernard de Jussieu, il oppose la nomenclature de Bernard de Jussieu à celle de Linné, en disant là, voilà une vraie nomenclature, alors que celle de l'inné est tout à fait arbitraire.
Tout à fait. Parce que, en fait, il ne faut pas. Il faut bien distinguer ce qui constitue l'essentiel de l'œuvre de l'inné. Il y a, d'une part, des principes. Et ces principes, c'est on doit décrire tous les êtres vivants. On doit les décrire d'une façon rationnelle. On doit les décrire avec un vocabulaire univoque. Il ne faut pas d'équivoque dans les descriptions. Il doit y avoir un ordre précis dans la description, en commençant par les caractères les plus importants, qui sont les caractères empruntés à l'appareil reproducteur. Et à partir de là, donc aussi bien celui des végétaux que celui des animaux du reste. Et à partir de là, l'inné va bâtir un système de classification qui est extrêmement commode parce que c'est un système presque mathématique. Il suffit de compter par exemple le nombre des étamines. Les plantes à une étamine sont dans une classe différente de celles à deux étamines et on peut donc ranger chaque plante peu à peu dans la case qu'elle doit occuper. Et même les plantes inconnues peuvent théoriquement, parce qu'il y a eu des exceptions par la suite, trouver place dans cette case-là. L'inconvénient, c'est que quelquefois, un même genre risque, les plantes d'un même genre risquent effectivement de se trouver dans deux cases différentes. Et on l'a reproché à l'inné. Mais l'inconvénient est surmonté par les Jussieu qui vont effectuer une enquête de façon à déterminer dans les familles en quelque sorte naturelles qu'on peut repérer à l'intérieur même du système linnéen ou bien de systèmes plus anciens comme celui de Tournefort. Par exemple, les plantes qui ont des fleurs en éperon ou bien les plantes qui ont des fleurs composées, ça va être des familles. Et à partir de là, en analysant ces familles de composés ou de fleurs, de plantes à fleurs en éperon, eh bien, on peut identifier quels sont les caractères qui servent en quelque sorte à caractériser une famille. Et par induction, développer les principes qui vont permettre d'établir de proche en proche les caractères qu'on doit employer pour créer d'autres familles qui sont moins apparentes à première vue, mais qui sont quand même des familles que l'on peut qualifier de naturelles. Donc, ça représente un progrès très considérable par rapport au système artificiel. L'inné considérait lui-même que la méthode naturelle était l'objet des recherches, devait être l'objet des recherches de naturalistes, mais il estimait que lui n'avait pas le temps d'aboutir concrètement. Et Jussieu a donc utilisé la nomenclature binominale genre-espèce de l'inné en adoptant finalement son concept de genre et son concept d'espèce, tout en proposant, Bernard puis Antoine Laurent, son neveu, tout en proposant une classification qui, elle, essaye de reproduire un ordre que l'on peut qualifier de naturel parce que les plantes qui ont des fleurs de même type se trouvent classées à l'intérieur d'un ordre précis. Mais Condorcet en plus était hostile à Buffon et faire l'éloge de l'inné, par exemple, ou de Jussieu, c'était démolir Buffon.
Simplement une question de clarification. L'inné avait-il un type de justification pour dire qu'un certain type de distinction méritait d'être vu comme une distinction essentielle ? C'est-à-dire, par exemple, que les caractéristiques des organes sexuels étaient donc essentielles. Sur quoi ça se basait, cette idée que c'était une propriété essentielle ?
Là encore, je pense qu'il y a les motifs invoqués et les motifs inavouables. Lorsque l'inné évoque le système sexuel, c'est d'une certaine manière à la fois scientifique et poétique. Et il insiste sur le fait que il va parler des amours des végétaux. Il va expliquer en latin, bien entendu, qu'on a affaire à des couples qui comportent plusieurs mâles dans un même lit, etc., etc. Et c'est la polyandrie, par exemple. Et alors, la traduction en français a d'ailleurs suscité des réserves profondes à partir du XVIIIe siècle et surtout du XIXe. Au XVIIIe siècle, ça a passé encore. Au XIXe siècle, les traductions françaises ont été éliminées des établissements d'éducation. Lorsque l'inné justifie cela par le fait que la reproduction des êtres vivants et le caractère permanent depuis la création établie par Dieu, c'est quand même un créationniste, même si on peut admettre qu'il y a un transformisme limité par l'utilisation, le recours aux hybrides par exemple, mais il y a donc chez lui une définition de l'espèce qui est une définition fondée sur la reproduction indéfinie des êtres vivants créés par Dieu par le moyen de la reproduction. Et la reproduction va donc être le critère majeur pour la classification.
Oui, simplement une petite remarque dans l'histoire des idées. On va reprendre à la fin du 18e et au début du 19e siècle la même démarche dans la classification pathologique et tératologique en particulier, où quand on décrivait des tératologies, il y avait des descriptions d'une phrase jusqu'à trois phrases, et c'est là que les Geoffroy Saint-Hilaire vont redire mais non, il faut mettre de l'ordre là-dedans, et avec des mots, un mot genre, espèce, et ensuite Isidore mettra plus que le genre. On sait tout de suite de quoi on parle et comment on peut faire une classification et ordonner en fait ce qui paraissait inordonnable, des pathologies difficiles à expliquer. Voilà. Donc on retrouve un schéma qui est déplacé.
Mais je pense, pour illustrer ton propos, je pense qu'il faut bien considérer que l'inné avait une assez haute idée de sa valeur, mais qu'elle a été pleinement reconnue au XVIIIe siècle, et que les naturalistes d'aujourd'hui continuent d'en profiter, mais sans s'en douter. C'est-à-dire qu'en général, on met l'inné, on explique que l'inné, c'est un grand homme parce qu'il a inventé la nomenclature binomiale. Alors qu'en fait, pour lui, c'était quelque chose d'accessoire, c'était pour indexer les ouvrages. Tandis que ce qu'on lui doit, c'est bien cette notion qui n'était pas du tout reçue au XVIIIe siècle, ni par Buffon, ni même par Réaumur, c'est cette notion qu'on doit étudier tous les êtres vivants. C'est le fait qu'on doit les étudier rationnellement, qu'on doit les classer. Il y a toute une série de choses qui sont particulièrement importantes et significatives, et cette idée de langue des sciences a été précisément reconnue par Condorcet. Elle a servi d'exemple et de modèle à Lavoisier d'une part et à Houy d'autre part, et même si le système minéralogique de Linné ou si le système nosologique de Linné pour décrire les maladies sur une base de nomenclature binaire d'ailleurs ont été très vite abandonnés ou n'ont pas connu une très grande faveur, eh bien l'exemple qu'il a donné a inspiré précisément tous les gens qui, à la fin du XVIIIe siècle, ont contribué à développer les sciences de la nature. Et ça, c'est ce que Buffon ne voyait pas. Et heureusement, on peut le dire, il y a eu ensuite une sorte de synthèse avec des gens comme Lamarck, par exemple, une sorte de synthèse entre les idées de Buffon et celles de Linné.
Merci, Monsieur Ban. Je peux me tromper, mais j'avais cru comprendre que la flore françoise avait connu un grand succès comme une sorte de littérature portative. Ça veut dire qu'en fait, quand les naturalistes et botanistes allaient dans les jardins avec la flore françoise dans leur poche, et je pensais qu'elle était...
trois volumes,
voilà,
quand même.
Oui, voilà, trois volumes. Et je pensais qu'elle était justement plus accessible, elle a connu plus de succès que la flore linnéenne, justement, parce qu'elle avait une utilité pratique. C'est ce que j'avais cru comprendre.
Tout à fait, oui, c'est tout à fait exact. Mais là, c'est là où Lamarck illustre en quelque sorte la volonté de Buffon d'établir en français un ouvrage qui facilite l'étude. Ouais. Mais ça avait été également le cas 15 ans avant, en 1764, de Claret de la Tourette, lorsqu'il avait publié, à l'intention des étudiants de l'école vétérinaire de Lyon, un ouvrage qui a été ensuite des démonstrations élémentaires de botanique, qui a popularisé vraiment le linnéisme, bien que le jardin ait été classé selon la méthode de Tournefort. Mais il y a là quelque chose qui va être assez vite abandonné. Par exemple, Aglaé Adanson, la fille d'Adanson, va insister sur le fait qu'il faut à tout prix utiliser la nomenclature binominale latine de façon à n'avoir aucune... Donc elle écrit ça en 1822 ou 24. Dans un ouvrage qui est destiné à servir de manuel d'économie domestique. Et elle explique que c'est la seule façon d'obtenir des pépiniéristes exactement ce que l'on veut, c'est-à-dire que la nomenclature latine, la nomenclature française, que quelqu'un comme Barbe Dubourg, par exemple, dont j'avais mentionné le nom sur le transparent, mais dont je n'ai pas parlé, préconisait de façon à faciliter l'approche de la botanique par les femmes, eh bien, cette démarche n'est pas du tout reçue, même par la gent féminine, qui, elle, va quelquefois apprendre le latin pour lire les ouvrages de Linné dans leurs textes. Linné a contribué, à ce point de vue-là, à l'émancipation de scientifique de la femme. Et j'ai beaucoup d'exemples à ce sujet-là, mais je ne peux pas rentrer dans les détails.
Bien, on va passer à la dernière communication de la matinée.
N'ayant pas été satisfaite par la lecture des deux principales biographies écrites sur Gregor Mendel, par Hugo Hultis en 1924 et par Vítězslav Orel en 1995, je tente depuis plusieurs années de déterminer les événements qui ont réellement composé la vie de Gregor Mendel. À cette fin, contrairement à ses biographes officiels, il faut prendre en compte non seulement sa participation probable aux événements révolutionnaires de 1948, mais aussi les mesures de rétorsion dont il a été l'objet par la suite. Et ça, ça n'apparaît absolument pas dans ses biographies. Venant régulièrement vous faire part de mes recherches, je remercie les membres de la Chevik pour leur écoute, qui m'est d'autant plus précieuse que ne travaillant plus dans un cadre professionnel, je mène ma quête de façon assez solitaire. Aujourd'hui, je vais évoquer devant vous les questions que je me suis posées lorsque j'ai étudié les circonstances de l'arrivée de Mendel à l'université de Vienne, d'où le titre de ma communication, celui que j'ai donné qui est un peu plus court que celui-là. Gregor Mendel fut-il un étudiant clandestin à l'université de Vienne en 1851 ? Après la révolution de 1948, le retour du pouvoir impérial impose à nouveau la censure. Un climat délétère s'installe dans tout l'empire des Habsbourg. Certaines villes restent même sous contrôle militaire pendant plusieurs années et la délation règne à nouveau entre les individus. Cependant, l'esprit révolutionnaire des revendications de Mars persiste dans la mise en place d'une réforme de l'enseignement secondaire et universitaire qui doit s'appliquer à tout système éducatif de l'empire. Nous allons voir que le destin de Mendel a été fortement conditionné par divers aspects de cette réforme qui fut mise en place sous l'impulsion du nouveau ministre de la Culture et de l'Enseignement, le comte Léo Thun Hohenstein, nommé en juillet 1949. La réforme devait moderniser le système d'enseignement autrichien afin de le porter au niveau de celui des grands États européens. Rédigé par le chef de cabinet de Thun, le philosophe Exner, qui était inspiré par les préceptes du pédagogue scientifique Herbart, la réforme voulait inciter les enseignants à donner un tour démonstratif à leurs leçons. Je vais évoquer rapidement comment elle fut mise en pratique simultanément dans le secondaire et à l'université. Avant 1848, l'enseignement secondaire donné dans les gymnasiums de l'Empire des Habsbourg comportait 6 ans d'études essentiellement classiques, suivait un enseignement de 2 ans donné dans un institut de philosophie comportant une forte proportion de mathématiques et de physique. L'histoire naturelle, absente de l'enseignement secondaire, était facultative dans le supérieur. Quand il avait lieu, cet enseignement était essentiellement de nature agricole. La réforme supprima les instituts de philosophie et leurs enseignements furent versés dans le cursus secondaire, qui fut de ce fait allongé de 2 ans. Dès la rentrée de 1849, les professeurs d'université en charge des instituts de philosophie ne furent pas assez nombreux pour assurer le nouvel enseignement dans les gymnasiums. Et peu d'enseignants du secondaire avaient la formation requise pour les assister. C'est dans ces conditions que le supérieur Knapp réforma Mendel de son état de curé et que, étant ancien élève de l'Institut de philosophie de l'OMUC, Mendel avait la formation donc pour éventuellement faire ses enseignements. C'est ainsi qu'il put lui procurer un emploi d'un an comme professeur suppléant. Mais, alors, cette histoire-là, je l'ai déjà racontée. C'est la première chose dont je me suis occupée dans la vie de Mendel. C'est encore un coup assez tordu. J'ai écrit un article entier là-dessus, je ne peux pas retomber dedans, mais enfin bon, il s'est débrouillé pour que Mendel ne redevienne jamais curé. Parce que Il aurait pu sortir provisoirement de sa situation, mais bon, donc c'est un coup assez bien réussi, mais qui à long terme a nuit beaucoup à la réputation de Mendel, parce qu'il a, il l'a fait réformer sous l'argument qu'il avait peur des malades, que c'était un curé pusillanime, mais Mendel n'était pas du tout comme ça. Alors, donc, voilà Mendel qui quitte son travail de curé, qui devient professeur, et dans une autre ville, alors que probablement il y avait du boulot à Brno, mais après 48, je pense que Nacque a préféré déplacer Mendel et l'envoyer un peu ailleurs, parce que ça chauffait un peu trop à Brno. Alors, donc, Mendel fait le professeur pendant un an, mais pour continuer à enseigner l'année suivante, ce candidat professeur dut se présenter à un examen d'habilitation nouvellement créé par la réforme. Il semblerait que cet examen n'était pas seulement destiné à juger des connaissances des impétrants, mais pouvait être aussi utilisé pour écarter de l'enseignement des étudiants considérés comme des agitateurs politiques. Ceux qui n'étaient pas exclus devaient néanmoins aller à l'université, acquérir la formation adéquate à la mise en place des nouvelles pratiques pédagogiques. Lors de l'interrogation orale de cet examen, Mendel fit la connaissance du président du jury, le professeur de physique Andreas von Baumgartner, qui apprécia ce candidat contrairement à un autre examinateur, le professeur de zoologie Kner, qui voulait purement et simplement le déclarer incompétent. Ce qui n'était évidemment pas vrai. Donc là, on voit la division politique des deux types de professeurs qui faisaient partie de cette commission. Certains étaient là pour empêcher que les mauvais éléments passent, et d'autres étaient là pour que, même s'ils étaient des mauvais éléments du point de vue politique, à condition qu'ils aient une valeur intellectuelle. Donc il y avait une forte tension dans cette commission, probablement. Enfin, comme dans tous les autres endroits à cette époque-là. Après avoir enseigné pendant un an, donc Mendel échoua à cet examen pendant l'été 1850 et perdit ainsi l'autorisation d'enseigner dans un gymnasium. Ne gagnant plus sa vie, il vécut aux dépens de sa communauté. Alors ça, c'est une caractéristique particulière des Augustins et du système autrichien d'enseignement que je n'ai pas encore tout à fait étudié, mais il apparaîtrait que les Augustins étaient des enseignants quasiment à temps complet et ils étaient payés pour ça. Et plusieurs d'entre eux ont été chassés de l'enseignement à cause de leurs idées. Et dans ce cas-là, ils devenaient des poids pour la communauté. Et quand la communauté n'avait pas les professeurs requis pour garnir certains postes, elle devait payer quelqu'un qui venait de l'extérieur. Donc Mendel a toujours dit qu'il voulait gagner sa vie, et c'est à cause de sa qualité d'Augustin. Alors, donc, il a raté son examen, et après délibération, il y a encore un sac de nœuds, et Baumgartner parvint à autoriser Mendel à se présenter à l'examen, donc il lui donne une autre chance, mais à condition qu'il acquiert une formation universitaire complémentaire. Donc, on est en août 1850, normalement, en septembre, il aurait dû aller à l'université, et entre autres à l'université de Prague, puisqu'il était tchèque. Pas du tout. Il perd un an, alors on raconte que les résultats des examens ne sont pas arrivés, ils sont arrivés qu'un an après, enfin bon. Et là, je ne sais pas si c'est eux qui mentent ou les autres qui ont bloqué le dossier. Bon, je m'en fous, après tout. On ne peut pas tout élucider, hein. Donc Mendel finit par arriver à Vienne à l'automne 51. Et il tombe tout de suite dans la réforme. Et il fallait donc, ils ont monté un enseignement pour préparer les candidats professeurs à l'enseignement des sciences de la nature dans le secondaire. Alors qui est-ce qui a fait ça ? Alors, un petit rappel sur l'université. Jusqu'en 1848, l'histoire naturelle spécialisée, la chimie et la botanique n'étaient que des disciplines enseignées sous une forme appliquée à la pharmacie, et elles étaient implantées dans les facultés de médecine. En 49, ces spécialités dégagées de leur forme appliquée furent transférées dans de nouvelles facultés, dites de philosophie, créée dans les universités de Vienne et de Prague. Dorénavant, les sciences de la nature devaient être enseignées par des professeurs compétents à la pointe du savoir et de la recherche. Oui, parce que le fait de passer l'enseignement des instituts de philosophie dans le secondaire, ils ont passé les profs avec. Et ayant dégagé des postes universitaires, ils ont pu faire venir des gens qui avaient une formation de chercheurs. Pour la première fois dans l'Empire autrichien, où toute innovation autre que purement technologique avait été considérée jusque-là comme suspecte, la réforme du ministre Léo Thun visait le développement de la recherche expérimentale en physique et en sciences naturelles et à stimuler la publication des résultats dans la nouvelle Académie des sciences créée en 1847. Une remarque amusante, c'est que l'Académie des sciences de Prague fêtait ses 500 ans à la même époque. La physique expérimentale était le fer de lance de la réforme. Par décret impérieux, un nouvel institut de physique fut créé à Vienne et Christian Doppler en fut nommé directeur et seul professeur dans le cadre de ce qui allait être le cours pratique de Vienne en physique, chimie, minéralogie, zoologie et botanique. D'après les statuts de cet institut de physique, rédigé par Doppler en 1850, pour être admis, les élèves, candidats professeurs à l'enseignement secondaire, devait avoir déjà suivi pendant au moins un an des cours universitaires en mathématiques et en physique. L'Institut ne prenait en charge que 12 élèves, dits des élèves réguliers, qui devaient être de nationalité autrichienne, sélectionnés par le directeur et agréés par le ministère. Donc c'était bien bouclé. Voici comment Doppler décrivait sa conception de l'enseignement. Le directeur dispense l'enseignement aux élèves par des démonstrations expérimentales. En conséquence, les élèves doivent avant tout apprendre à monter les expériences qui démontrent les principes des sciences naturelles, comme le réclame l'enseignement des collèges. À cette fin, ils doivent acquérir un certain degré d'habileté manuelle dans les techniques de traitement du bois, du métal et du verre. Lorsque les expériences à but pédagogique sont réalisées convenablement et sont assimilées, le directeur accompagne alors les élèves au cours de travaux scientifiques personnels et indépendants dans le domaine de la physique. Doppler précisait dans ces mêmes statuts la façon dont il voyait l'initiation des élèves à une recherche indépendante. Le directeur, je cite là, le contenu des statuts, hein, parce que sinon, il y a très peu de publicité faite sur cette première phase de la réforme. Le directeur donne à l'élève concerné une tâche qui lui paraît adaptée à ses forces. Il l'invite à étudier avec ardeur et à fond ce qui est paru sur le sujet et à en faire des fiches, travail dans lequel il l'assiste. Lorsque l'élève s'est suffisamment familiarisé avec le sujet qui lui a été donné, il doit présenter au directeur un projet écrit où il présente la recherche qu'il veut mener. Après approbation du directeur, il commence ses expériences. Il doit tenir un journal exact de la progression de ses recherches et rédiger ses résultats lorsqu'il a fini son travail expérimental. Cette rédaction est un exercice qui lui sert à justifier son activité à l'Institut. Cet essai est présenté au directeur qui le soumet à une critique scientifique et le rend à l'élève afin qu'il l'améliore. Si le travail est digne d'être publié, l'essai d'impression en est autorisé. Doppler donna ainsi aux candidats professeurs à l'enseignement secondaire une formation pratique et théorique en physique qui leur permit de devenir non seulement des enseignants aptes à effectuer des démonstrations expérimentales, mais aussi des scientifiques capables de mener des recherches indépendantes dans leur spécialité. En ce qui concerne Mendel, pendant les deux semestres de l'année universitaire 51-52, il assista aux démonstrations de physique expérimentale que Doppler faisait tous les jours de 10h à midi, et comme les autres élèves, il passa le reste de la journée à reproduire les démonstrations de Doppler et à travailler à sa recherche personnelle. Il acquit ainsi chez Doppler une habileté expérimentale pour laquelle le professeur Auspitz l'embauchera en 1854 en tant que professeur de la nouvelle école technique de Brno. Mais plus qu'un professeur loué pour ses capacités pédagogiques, Mendel a été un des rares élèves de Doppler à mener une recherche expérimentale fructueuse dans un domaine autre que la physique. Plus tard, s'appuyant... Il n'a pas travaillé tout de suite sur son sujet, hein. Plus tard, s'appuyant sur les recommandations de Doppler, alors qu'on procédait le plus souvent par tâtonnement, Mendel a su mener une expérimentation selon un programme établi à l'avance et susceptible d'être vérifié et confirmé mathématiquement. Il a commencé son étude par une recherche bibliographique méthodique sur les expériences d'hybridation menées antérieurement, ainsi que sur les techniques de fécondation artificielle mises au point récemment sur les végétaux. Il a ainsi acquis une connaissance approfondie des résultats antérieurs, les a vérifiés et a dégagé les questions qui se posaient encore. Pour les résoudre, il a su choisir un matériel biologique adéquat et proposer ensuite un dispositif expérimental. Mendel avait donc appris à cerner les problèmes précisément, à consigner systématiquement les conditions d'exécution de ses expériences, à analyser statistiquement ses données. Là, je vais peut-être dire une bêtise. Ainsi, il a pu regrouper les résultats d'un grand nombre d'expériences similaires. Parce que, bon, quand il faut compter 7000 petits pois pour voir la ségrégation, il faut avoir l'idée de cultiver des petits pois pour en avoir 7000. Et je me suis posé la question, comment il était arrivé à faire ça. Et je me suis dit, si vous voulez faire des calculs statistiques, il a peut-être tout regroupé, et c'est comme ça qu'il est tombé sur les ségrégations. Mais en fait, je pense que c'est une autre idée. C'est pas comme ça que ça s'est fait. Sans cela, Mendel n'aurait pu montrer la ségrégation des gènes du pois qui ne pouvait se voir ni dans une gousse, ni sur un ou plusieurs pieds. Fallait vraiment, il insiste beaucoup dans son article sur la loi des grands nombres. Ce n'est qu'en réunissant les résultats de plusieurs expériences analogues, c'est pas intéressant. Enfin, c'est également sous l'impulsion des conseils de Doppler qu'il a envisagé de rédiger ses observations afin de les publier en 1865. 100 ans plus tard, lors de la commémoration de sa publication, le travail décrit par Mendel frappait encore par son modernisme. Ainsi, Mendel, venu à l'université de Vienne à l'âge de 29 ans pour acquérir la qualification de professeur de l'enseignement secondaire, s'est initié de ce fait à la recherche expérimentale. Bon, alors maintenant, je vais passer dans un système anecdotique pour savoir ce qui s'est vraiment passé. Il est bien évident que mon analyse du travail de Mendel est tout à fait superficielle et que je ne cherche pas à faire quoi que ce soit de ce genre. Je cherche simplement à rétablir l'histoire de ce qui s'est passé et qui est vraiment assez nouée. Alors, comment Mendel, qui était silésien, a-t-il pu assister à l'enseignement de Doppler en 1851, puisqu'il était dit dans les statuts qu'il fallait des Autrichiens? Mendel avait acquis la préparation théorique pour être accepté à l'Institut de physique lors de ses 2 années d'études à l'Institut de philosophie de Lomouk en 1841-42. En tant que silésien, Mendel n'était pas admissible à l'Institut de physique en qualité d'élève ordinaire. Mais toujours d'après les statuts de Doppler, si on regarde bien, il y a encore un petit paragraphe que je vais vous lire. Le directeur se réservait la possibilité d'avoir quelques élèves extraordinaires pour l'admission et le niveau d'études desquels il était seul juge. Cette clause pouvait donc donner l'accès à l'Institut à des ressortissants de l'Empire qui n'étaient pas autrichiens, et cela à l'insu de l'administration universitaire. Comme Doppler n'emménagea qu'en octobre 51 dans ses nouveaux locaux, il ne commença son enseignement que début novembre. Il rattrapa ce mois de retard en enseignant pendant une partie des vacances de Noël et de fin de semestre. Mendel retournait au monastère de Brno lors des vacances universitaires, et on remarque que les dates qui figurent sur son passeport, je les ai vérifiées, coïncide avec celle de ses cours, ce qui témoigne de sa fréquentation assidue à cet enseignement. Par des feuilles de présence et divers témoignages, on sait que Mendel assista aux cours pratiques de Vienne, les différentes, en physique, minéralogie, zoologie et botanique, de 1851 à 1853. Mais, malgré des recherches exhaustives, son premier biographe, Hugo Iltis, n'a pas trouvé son nom dans le registre d'immatriculation de l'Université de Vienne, ni dans celui de la faculté de philosophie, pour aucune des années en question. Et ce n'est pas un problème de documents falsifiés ou perdus, parce que les registres, on les a, et il n'est pas dessus. Rappelons qu'après son échec à l'examen passé pendant l'été 1850, Mendel aurait dû se rendre à l'université dès la rentrée 50-51, mais à cette époque, l'Institut de physique ne disposait pas encore de ses locaux particuliers où il n'emménagea qu'à la rentrée 51-52. De plus, l'arrivée de Mendel fin octobre 51, un mois après le début officiel des cours, coïncide tout à fait avec le début de l'enseignement de Doppler. Nous en concluons que Mendel est venu à Vienne pour suivre les cours de Doppler et n'a fréquenté cet institut qu'après son installation dans des locaux privés qui échappaient à la vigilance de l'administration universitaire. D'où l'interrogation, se pourrait-il que Mendel ait fréquenté l'université de Vienne en clandestin? Dans ce cas, on peut se demander comment Mendel est parvenu à devenir l'élève de l'Institut de physique. Contrairement à ce que prétendent les biographes de Mendel, Iltis et Aurel, et ceux de Doppler, Eden et Schuster, Doppler ne connaissait pas Mendel avant son arrivée tardive à l'université fin octobre 1951. C'est avec le professeur Baumgartner, qui était président du jury d'examen, que Mendel a passé l'oral de physique à la mi-août 1850. Baumgartner ayant été nommé ministre du Commerce, Doppler lui succède le 30 août, sans avoir rencontré Mendel. Le procès-verbal de l'examen, daté du 17 octobre 1850, est envoyé sous la responsabilité de Doppler, qui n'a pu que manifester son assentiment aux conclusions de son illustre prédécesseur, à savoir que Mendel ne pouvait pas enseigner sans avoir suivi les nouveaux cours universitaires. Donc, c'est grâce à la recommandation de Baumgartner que Doppler a accepté Mendel comme élève à l'Institut de physique, car il a été probablement l'obligé du très influent comte von Baumgartner, dont dépendait la nomination du directeur du nouvel institut de physique. En effet, Baumgartner avait été auparavant et pendant de longues années le professeur de physique réputé de l'université de Vienne. Il fut le premier président de la jeune Académie des sciences de Vienne qui fut créée en 1947. Enfin, Baumgartner fut aussi un homme politique influent qui avait participé à plusieurs ministères libéraux. Donc c'était un noble qui avait les coudées franches apparemment. La protection fournie à Mendel par Doppler indique clairement qu'il était aussi partisan d'une politique libérale, appartenant jusqu'à maintenant soigneusement cachée par ses biographes. Ah oui, alors dans la vie de Doppler comme dans celle de Mendel, la politique, on n'en parle pas. Ils étaient très menacés durant leur vie et on dirait que la menace continue quelque part. Donc on n'en parle pas. Et pourtant, ils étaient très typés, hein. Alors, donc les biographes ne parlent jamais de politique. Cependant, alors que j'ai été surprise d'ailleurs que pour Doppler ce soit pareil, ce serait presque pire pour Doppler. Cependant, le rapport d'activité de Mendel à l'Institut de physique et le rapport de Doppler sur cette activité n'ont pas été trouvés. On ne sait donc pas sur quoi Mendel a travaillé, quoiqu'on a une petite idée, mais je ne l'ai pas vérifié. Pour l'instant, on ne sait pas. Dans les bouquins, dans les deux biographies, ils ne savent pas. À nos yeux, l'absence de ces documents tiendrait non seulement au statut de Mendel, mais encore à l'arrêt brutal de la carrière scientifique et pédagogique de Doppler le 1er novembre 1852. Très malade de la tuberculose et sujet à une violente attaque de ses travaux scientifiques publiés en 1842 à l'Académie des sciences de Prague, il est possible que dans l'adversité, Doppler ait lui-même fait disparaître ses papiers qui matérialisaient la présence d'un élève qui pouvait être compromettante pour lui au cours de la période post-révolutionnaire encore très houleuse. Enfin, nous remarquons que Mendel ne s'autorisa à suivre les autres cours du cours pratique de Vienne qu'à partir du deuxième semestre de l'année 51-52, au début duquel le professeur Baumgartner fut à nouveau membre du comité directeur de l'Université de Vienne. Et on remarque que jamais il n'assista au cours de zoologie du professeur Kner qui l'avait barré lors de son examen. Alors là, c'est pareil, il raconte des tas de salades pour expliquer pourquoi il n'y a pas été. Mais toujours pas d'explication politique. Nous concluons donc que les particularités de la participation de Gregor Mendel à l'enseignement de l'Institut de physique confirment notre hypothèse selon laquelle Gregor Mendel, à la suite des événements datant de 1848 et en particulier de sa signature sur une pétition en août 1848 avec la mention « candidat professeur », fut effectivement l'objet de poursuites discriminatoires qui ont frappé les jeunes révolutionnaires de 1848 par l'interdiction de s'inscrire à l'université. Je vous remercie.
Des questions.
Ça vous paraît plausible ce que je raconte ou j'ai l'air de sortir de ma ligne?
Est-ce que tu peux nous donner une petite précision sur le plan des sources pour la première partie de ton exposé en fait, parce que pour la deuxième partie on voit assez bien, mais tout l'épisode entre Nappe et Mendel, c'est sur la... Sur les sources, ce que tu as, comment tu as pu mettre ça en évidence?
J'ai photocopié tous les fondements de Diana. J'ai donc photocopié les biographies de la
Je vous posais une question à propos des travaux expérimentaux de Mendel. Quelle était la nature de l'expérimentation qu'il aurait fait sous la direction de Doppler, première question. Et deuxièmement, si j'ai bien compris, vous avez dit tout à l'heure que Doppler avait également contribué à la présentation des résultats de Mendel, ses travaux expérimentaux en 1865.
Non. Doppler est né en 1850 et mort en 1853.
Ah, d'accord. Et alors, qu'a fait Mendel chez Doppler ?
Mendel chez Doppler, il a appris à faire de la science expérimentale.
Oui, d'accord, mais je veux dire, concrètement, est-ce qu'on a connaissance ?
On n'a pas de documents.
Ah bon ?
Il y a des gens qui disent, il y a des petites suppositions qui disent qu'il a fait de la cristallographie. Parce qu'il y a, vous verrez, il a été à l'exposition universelle de Londres. D'ailleurs, je me demande s'il n'a pas été pour rencontrer Darwin, qui à ce moment-là était allé au bout d'Angleterre.
Plus quelle est la date. Oui, c'est ça, oui.
Mais Mendel a toujours été disqualifié en tant que professeur, parce que l'examen, il n'a jamais pu passer. Ça, je ne vais pas traiter là, parce que... Il s'est carrément disputé avec l'examinateur. Et donc, Mendel a toujours été un sous-prof, très brillant, très apprécié par ses autres professeurs.
Bien.
Une question technique, je pense que les archives à Vienne ont été fouillées, dépouillées.
Moi, je ne suis pas une historienne. Hein. Je suis une scientifique qui veut remettre un titre, on ne sait pas. Et ce que j'essaie, c'est d'allumer des petits feux un peu partout, jusqu'à temps que quelqu'un soit convaincu et fasse le boulot. Parce que moi, il faut lire l'allemand, je ne lis pas l'allemand. Donc, tout ce que je lis, c'est des trucs en anglais, parce que tout ce qui a été écrit, certaines choses ont été traduites. C'est le monde de Kafka hein, aussi. C'est assez alambiqué.
Hein. Est-ce que les biographes de Mendel font des références à des archives de...
Bien sûr. Je ne critique pas le travail des archives. Alors d'abord, Mendel est devenu célèbre très longtemps après sa mort. De son vivant, il y a eu un sac de nœuds. On pourrait même dire qu'il nous tue. Hein. Probablement, il a été empoisonné. Et il avait un rival qui a brûlé tous ses papiers juste après sa mort.
Merci. Donc on va monter pour manger comme hier et on reprend à 14h30. La salle va être fermée de nouveau.